Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Au cœur du conte du Petit Poucé, conte écrit par Charles Perrault au XVIIe siècle, siècle de Versailles et de la cour du Roi Soleil, mais aussi siècle de Port-Royal et du jansénisme, au cœur du conte du Petit Poucé, disais-je, se trouve la question du mal. Le mal qui est incarné par la figure de l'ogre. Dans ce conte en miroir, nous plongeons dans l'intériorité du Petit Poucé, ce héros fragile mais attentif. Un héros, mais pas tout à fait comme ceux que la mythologie a créés. Et c'est vers un autre anti-héros, antithèse, pourrait-on dire, du Petit Poucé, que nous allons aujourd'hui nous tourner. Il s'agit d'Héraclès. Et c'est avec le docteur Dominique Desmichel, médecin et psychanalyste, que nous allons faire la connaissance de ce héros de l'Antiquité. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, à première vue, rien ne rapproche le Petit Poucé du grand Héraclès. Même tous les opposent. On a, dans mon souvenir, Hercule qui est extrêmement costaud et le Petit Poucé qui est justement le plus petit de la famille.
Oui, alors on a un petit peu l'idée de Hercule comme une espèce de héros de bande dessinée extrêmement fort, pur, évidemment grand, justifié, etc. On va peut-être reprendre un tout petit peu l'histoire d'Hercule parce qu'on s'aperçoit, ou de Héraclès, on s'aperçoit que Héraclès, c'est vraiment une figure quand même particulièrement sombre, même s'il reste pour nous une grande figure de héros. Alors si on reprend un tout petit peu son histoire, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, comme d'habitude, on va s'intéresser, pour nous les humains, et puis pour moi le psy aussi, s'intéresser un petit peu sur la filiation. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a une filiation qui n'est pas très simple, pas très anodine. D'une part parce que sa mère, elle se nomme Alcmène. Et puis son père, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que son père, donc je vais dire le mari de sa mère, il s'appelle Amphitryon. Le problème, c'est que Zeus, le roi des rois, dont on sait bien qu'il a quand même l'amour facile et qu'en fait, il choisit un tout petit peu ses objets d'amour comme s'il allait au supermarché, eh bien, en fait, il s'est épris d'Alcmène. Et puis, un soir, il va se glisser dans sa couche. Et comment il va faire pour pouvoir se faire accepter d'Alcmène? Eh bien, en fait, il prend les traits de son mari. Voilà, évidemment, il suffisait d'y penser. Il n'y a pas de problème, c'est facile pour les dieux. Et le récit mythologique raconte que leur étreinte a été si délicieuse, si parfaite, peut-être si extraordinaire, que le roi de l'Olympe va retarder en fait le lever du soleil pour que leur nuit d'amour en dure, paraît-il, 3. Alors, peu de temps après, en fait, Amphitryon, donc le vrai mari d'Alcmène, il rentre, il s'unit à son épouse, et donc voilà Héraclès qui est le fruit, on pourrait dire, de deux descendances. Sur le plan biologique, évidemment, ça ne tient pas la route, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui a fécondé l'ovule, mais dans les récits mythologiques, eh bien, la filiation symbolique ici est double. Il y a une figure paternelle qui est divine, et il y a une figure paternelle qui est tout à fait humaine.
Ce qui donne donc un demi-dieu.
Voilà, ce qui donne tout à fait un demi-dieu. Voilà, celui qui a une. En général, c'est d'un côté un dieu, de l'autre côté une mortelle. Et ça donne en effet cette créature un petit peu hybride qui a cette double filiation. Alors ça va évidemment créer quelques problèmes dans le ménage de Zeus avec Héra, et elle n'est pas du tout contente, la Héra en question, c'est-à-dire l'épouse légitime, et en fait elle va retarder l'accouchement d'Alcmène pour permettre à son cousin, qui s'appelle Eurysthée, qui est le fils du roi d'Argos, une autre province grecque, d'avoir le pouvoir en tant que premier-né sur le royaume d'Argolie. Hein, voilà. Alors, sur le plan plus symbolique, on peut vraiment penser que Héraclès, c'est une figure fondamentale, c'est une figure archétypique. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une figure archétypique? C'est parce qu'il porte une double valeur. Alors, c'est quoi l'archétype? L'archétype, ce sont des grands schémas, au fond, on pourrait dire des grands logiciels, si on prend une image, qui permettent de faire fonctionner notre psychisme. Ces grands archétypes, il y a par exemple l'archétype du père, l'archétype de la mère, l'archétype du fils, et en soi, ces archétypes, ils n'ont pas une valeur bonne. Voilà, on a vu par exemple dans l'histoire de Blanche-Neige, on a parlé de l'archétype de la beauté. Alors la beauté, on pourrait dire, c'est positif. On a bien vu que la beauté de la reine-mère, elle était extrêmement problématique puisqu'elle allait aboutir à ce climat de jalousie vis-à-vis de Blanche-Neige et donc au meurtre de Blanche-Neige par sa mère, ou au quasi-meurtre en tout cas. Héraclès, c'est la même chose, on a une double valence. Et il n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce héros de bande dessinée qui va être une figure à la Bruce Willis et que je te sauve l'humanité en danger en 1h30. Je combats l'injustice et je suis le défenseur du faible et du couillon. Non, là, il est surtout là d'abord pour maintenir l'ordre cosmique qui est toujours important chez les Grecs et qui est voulu par Zeus. Il va lutter, certes, contre les forces sombres, c'est-à-dire les dieux qu'on dit pré-olympiens, c'est-à-dire les dieux les plus archaïques. Dit en langage courant, ça veut dire toutes les forces les plus sombres qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est-à-dire notre dimension de violence, notre dimension de jalousie, notre dimension de rivalité. Et dans cette fonction-là, il va lui être demandé d'accomplir un certain nombre de travaux, tout le monde connaît, les 12 travaux d'Hercule. Ne me demandez pas tous les 12 parce que j'en oublie en général un ou deux ou plus, mais on va s'occuper en tout cas aujourd'hui des deux premiers.
Alors, par rapport à ce que vous avez dit, on est quand même très loin du petit poussé pour l'instant encore. On y approche, mais...
Oui, on est loin du petit poussé. Donc on pourrait dire le petit poussé, dans un sens, c'est une sorte de anti-héros. Hein, c'est-à-dire, voilà, il n'est pas... C'est pas Batman, c'est pas Superman, il n'a pas plein de pouvoirs absolument extraordinaires. Non, mais on a bien vu, lorsqu'on a travaillé le texte lui-même, qu'en fait, il accomplit des tas de choses. Il va sauver ses frères une première fois, il les sauve une deuxième fois, il va ensuite pénétrer au cœur de la forêt, ensuite il va se mesurer à cette figure un peu ambivalente de la femme de l'ogre, puis ensuite il va se confronter avec l'ogre, puis ensuite il va sacrifier les filles, il va favoriser le sacrifice des filles, c'est-à-dire le meurtre du père vis-à-vis des filles. Il va emmener ses frères et sœurs, il va prendre les bottes de cet lieu, les bottes de l'ogre, et finalement, il va accomplir quelque chose dont on pourrait se dire, quand même, chapeau bas, hein, c'est pas rien du tout.
Alors, n'est-ce pas là, justement, une caractéristique des contes par rapport au mythe ? Cette fragilité du héros, on peut penser à presque tous les contes, j'ai envie de dire, où c'est toujours le petit dernier qui résout l'aventure, un petit chaperon rouge, un cendrillon, enfin, tous ces anti-héros à la base.
Oui, je pense que dans les récits mythologiques, il y a toujours un conflit, il y a toujours un problème, et dans le conte, on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire là, par exemple, on a vu que dans l'histoire du Petit Poucé, c'était une famille où il y avait 6 enfants et une famille, et un manque d'amour, hein, probablement, si on l'entend symbolique, et il allait arriver à un 7e enfant qui est un petit peu différent, le Petit Poucé. On a vu que par rapport aux doigts de la main, des 4 doigts qui se ressemblent un tout petit peu, il y en a un qui va être différencié, qui va permettre la pince, qui s'oppose. Et voilà. Alors, dans les mythes, il y a toujours cette blessure initiale, il y a toujours ce drame initial, mais le plus souvent, ça se termine pas très très bien. Alors, de temps en temps, on le voit par exemple dans l'histoire d'Héraclès, il y a ce qu'on appelle une apothéose, c'est-à-dire « apo » et puis « théos », c'est le mot « dieu », hein, de « théos » comme « théologie ». C'est-à-dire le héros va finalement être sauvé parce qu'il a quand même accompli des choses particulières. Il va retourner dans le monde des dieux. Mais normalement, la grande majorité des mythes, on voit ça avec Tantale, Midas, ce sont des choses qui se terminent mal parce que le destin est là et c'est ce qui importe. Les héros grecs ne sont pas des surhommes, ce sont pas des salauds non plus. Ils sont en fait totalement irresponsables de ce qui leur arrive. Le destin leur a imposé un cours de vie particulier. C'est ce destin qui les emprisonne. Ils n'ont pas le choix. Et ça se clôt comme ça. Alors le conte de fées, il reprend souvent une même problématique comme celle-là, mais il va proposer une solution. C'est-à-dire, il s'agit de dépasser un conflit, de le comprendre, de le mettre en œuvre et de trouver une solution. Donc, on pourrait dire que dans une certaine mesure, je suis bien d'accord avec votre remarque, c'est que le petit poussé, ça n'est pas Héraclès, ce n'est pas une figure comme Thésée non plus, même si au fond, il y a pas mal de ces pérégrinations qui renvoient aussi à un chemin que peuvent faire les Grecs, en particulier Thésée, quand il fait sa longue route là, qui va le mener quelque part et son destin. Il n'est pas dans la même figure, mais en même temps, il accomplit quelque chose de tout à fait important.
Alors revenons à la figure d'Héraclès, qui est effectivement une figure complexe, mais dans la mythologie, c'est vrai que nous avons des personnages qui sont quand même beaucoup plus riches en personnalité, souvent, que dans les contes, qui sont des histoires assez brèves. Après, évidemment, on peut imaginer que le talent du conteur permettait de faire durer des histoires comme le petit poussé sur des sur plusieurs heures et peut-être d'enrichir la personnalité du héros. En tout cas, nous avons gardé les traces de héros mythiques qui sont extrêmement complexes. Là, je pense à Ulysse, je pense à... Et qui sont effectivement ni tout noir, ni tout blanc.
Oui.
Alors, qu'en est-il d'Héraclès pour... voilà.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le personnage du conte est un personnage qui a une fonction particulière. Hein. Il est en général dans un rôle et il accomplit quelque chose. Donc il est en général beaucoup moins polysémique, beaucoup moins complexe, beaucoup moins polyvalent que le héros grec. Hein. Héraclès, il fait des tas de choses tout à fait extraordinaires et puis en même temps, il fait des choses absolument horribles. Il va sacrifier des enfants, il va en tuer d'autres, etc. Le héros du conte accomplit quelque chose qui est juste. En général, il ne se prend pas pour un héros. On a vu déjà que le plus souvent, il est anonyme. De temps en temps, il a quasi pas de nom. De temps en temps, il met du temps à avoir un nom. Dans l'histoire de Podane, par exemple, il y a presque la moitié, je ne sais plus combien, du récit. Au début, elle n'est pas nommée, elle n'a même pas de nom. Petit poussé, c'est quasi pas un nom. Les frères et sœurs, ils n'ont pas de nom. Les parents, ils n'ont pas de nom. Il y a une scène qui est une scène générale, une scène archétypique. Et puis là, il y a un personnage qui se dégage. Le petit poussé, c'est d'abord le pouce qui s'oppose et qui est différencié des autres. Voilà. Donc c'est vrai que il y a une sorte de simplification.
Mais pourtant on sent parfois une source commune entre les contes et les mythes, comme si les contes ou les mythes, enfin je sais pas lequel est dérivé de l'autre, mais sûrement les contes dérivés du mythe, mais on sent parfois quand même des rapprochements assez forts entre deux histoires.
Je pense que ce qui réunit au fond le conte et le mythe, c'est que ça raconte la psyché humaine, hein. C'est-à-dire ça raconte la vie, on pourrait dire, mais ça la raconte du point de vue des personnages qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Donc au fond, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose d'une figure héroïque. De temps en temps, on accomplit des choses qui sont particulièrement justes, particulièrement bonnes, particulièrement utiles. Et puis de temps en temps, il y a des parts d'ombre à l'intérieur de nous-mêmes qui fait qu'on est plus centré sur soi, qu'on va être dans une position particulièrement égoïste, que de temps en temps, nos besoins, nos pulsions, nos désirs nous font oublier l'autre, par exemple, ou oublier de le respecter, ou oublier une forme de bienveillance. Hein.
Alors venons-en à ce qui rapproche le petit poussé et Héraclès. Qu'est-ce que leur quête a de commun ?
Alors je pense que on a vu, je l'ai rappelé là il y a peu de temps, on a vu que dans l'histoire du petit poussé, le petit poussé va se situer par rapport à ses frères et que en gros, il y a des garçons, un père, non, je vais le dire autrement, il y a dans la famille qui habite près de la forêt, du bûcheron au départ, il y a un père, une mère et puis six garçons, plus le petit poussé. Dans la forêt, il y a au cœur de la forêt, il y a une famille à peu près équivalente, puisqu'il y a le père, mais qui est un ogre, une femme qui n'est pas une ogresse, elle n'est jamais désignée comme une ogresse, elle est désignée comme la femme de l'ogre, donc on peut l'entendre comme une sorte de féminin qui serait là, et puis il y a les enfants qui sont toutes des filles. Et au fond, on a vu que l'ogre, qui normalement est un dévoreur d'enfants, finalement, il est plutôt un violeur de femmes ou de filles, puisqu'il monte à l'étage et il va monter avec son grand couteau et il va tuer ses filles. Hein, donc on l'entend bien dans quelque chose qui serait une forme de violence, ici c'est plutôt incestueux, mais dans une forme de violence qui serait du masculin ou du féminin, avec un féminin, ici incarné par les filles, qui n'arrive pas à trouver sa place. Au fil du récit, nous avons vu après que Le petit poussé va aller récupérer auprès de la femme un trésor, le trésor de l'ogre, le trésor de l'ogre, et il va ramener ce trésor à son père. Et on a vu qu'à ce moment-là, ça aurait pu se clore ici. Hein. Donc je pense que c'est important de se dire que la figure sombre masculine a été éliminée, l'ogre, on n'en parle plus, et que ce qui est ramené au père, d'ailleurs la femme du père bûcheron a disparu, ce qui est ramené, c'est quelque chose qui est le trésor de l'ogre, mais qui est donné par le féminin, puisque c'est la femme de l'ogre qui donne le trésor. Et on a vu qu'il y avait quelque chose qui était ajouté après, c'est-à-dire l'histoire ne se finit pas, il y a comme une espèce de petit rap dans l'histoire, et dans cette histoire-là, c'est l'histoire d'un royaume qui est en guerre, dans lequel il y a un roi, il n'y a pas de reine, donc là aussi il y a quelque chose d'un féminin qui manque, et le rôle du petit poucet, c'est de faire le lien entre les hommes et les femmes, les soldats et leurs amoureuses, et il y a quelque chose autour de la communication. Hein. Donc je crois que ce qui relie au fond là, les deux histoires, on va le revoir en détaillant un petit peu plus pour Héraclès, c'est quelque chose autour d'un féminin, d'une sensibilité, d'une émotion qui manque dans cette histoire. Et je vous rappelle qu'on peut à ce moment-là entendre le début de l'histoire du petit poucet, non pas comme une sorte de famine réelle, hein, c'est-à-dire on a du mal à boucler les fins de mois, mais on l'entend sur le plan symbolique, c'est-à-dire c'est quelque chose des sentiments, c'est quelque chose de l'affection, c'est quelque chose de la relation d'amour entre les parents et les enfants, quelque chose qui est du côté du féminin, rien à voir avec les hommes, avec les femmes, hein, c'est du côté de la fonction archétypique du féminin qui est manquant.
En tout cas, le féminin est là du côté des femmes dans le petit poucet est aussi mis à mal par Charles Perrault et par l'histoire où nous avons des femmes qui sont plutôt lâches et qui sont totalement soumises à leur mari et qui même agissent contre leur gré. Plus ou moins contre leur gré. La femme du bûcheron agit quand même plus sous la grosse influence de son mari et la femme de l'ogre également, évidemment.
Oui, c'est un peu difficile de comprendre. Hein. Sur le plan psychique, je suis assez d'accord avec vous, mais on ne sait pas très très bien ce qui se passe dans ce couple. C'est pour ça que moi j'aime bien intégrer, enfin penser ma lecture ici, non pas comme il y a un papa et une maman, mais il y a un personnage qui est en souffrance. Et qui est en souffrance, en l'occurrence, c'est le père, puisqu'en fait, le trésor est ramené au père, toute la solution est centrée sur le père, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des tas de contes, on reverra par exemple dans le conte qu'on verra plus tard, qui est La gardeuse d'oie, que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est un royaume dans lequel il y a une reine qui est veuve et qui n'a pas de mari. Donc il y a d'autres situations dans les contes qui traitent de tout à fait autre chose. Et on va voir dans ce conte de La gardeuse d'oie que le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas d'homme. Voilà, il n'y a pas d'homme. Donc, quand une fille va aller trouver un mari et qu'elle n'a pas de père qui a été présent pour à la fois lui donner son identité et puis pour lui faire expérimenter ce que c'est qu'une relation entre un père et une fille, eh bien, c'est plus difficile.
Alors, nous en arrivons au mythe d'Héraclès, où eh bien, la figure féminine aussi, la recherche peut-être, vous allez nous le dire, d'un équilibre masculin-féminin, est aussi extrêmement présente.
Alors, si on reprend un tout petit peu l'histoire, il y a plusieurs mythographes. Les mythographes, c'est ceux qui ont graffé les mythes, hein, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les mythes. Il existait autrefois des biches qui étaient vivantes, libres et rapides, et qui étaient considérées comme ayant des bois d'or et des sabots des reins. Et Artémis, qui est la déesse chasseresse, elle va essayer de les capturer. Elle en capture quatre, mais la dernière, qui est beaucoup plus rapide, réussit en fait à s'enfuir dans une colline qui s'appelle la colline de Cérynie. Et donc ça va donner le mythe un des travaux d'Hercule, qui est d'aller récupérer la biche de Cérynie. Cette biche est alors consacrée à la déesse et elle devient une sorte d'animal sacré que, bien évidemment, aucun être humain mortel ne peut toucher à partir du moment où elle a cette sacralisation. On a vu que, je vous ai parlé tout à l'heure du cousin, hein, Héra s'était un peu piqué en une grosse gueulante parce que son mari l'avait trompé avec Alcmène et la femme d'Amphitryon. Et donc il y a des conflits entre Eurysthée, le cousin, et puis Héraclès. Et Eurysthée va contraindre Héraclès à accomplir des travaux. Et dans un des travaux. Alors, Héraclès, il est représenté dans la mythologie par deux éléments caractéristiques. D'abord, une espèce de peau de lion qui porte sur son dos. Donc, quand vous voyez un tableau et qu'il y a un personnage héroïque qui a sur lui une peau de lion, c'est Héraclès. Et son deuxième attribut, c'est qu'il a une énorme massue. Donc, vous voyez, sur le plan des figures, c'est vraiment une figure extrêmement virile. Hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus viril. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, où j'invite le lecteur à imaginer qu'il s'agit pour Héraclès d'aller conquérir quelque chose autour du féminin, c'est que Héraclès va déposer sa massue et il ne va emporter que son arc. Voilà. Et moi, je propose une lecture en disant qu'il va lâcher une espèce de virilité pulsionnelle et il va garder que l'arc, c'est-à-dire l'instrument d'Eros. Hein, tout le monde connaît Eros Cupidon, là, cette espèce de petit, surtout chez les Romains, qui est ce petit bonhomme un peu joufflu là, qui a son arc, et qui bande son arc et qui envoie une flèche, et ensuite vous tombez amoureux. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il croit rejoindre la biche, il arrive trop tard et il ne retrouve qu'une sorte de litière chaude, mais le texte nous dit qu'il la caresse avec tendresse. Vous voyez, donc il y a quelque chose, il me semble, là, où on n'est pas dans une figure caricaturale virile, mais dans quelque chose qui est plus doux. Et au fond, l'un fuit, l'autre la rattrape, et ça dure comme ça pendant pas mal de temps. Et puis un jour, Héraclès va réussir à blesser la biche avec l'une de ses flèches, mais le texte nous dit « sans la faire saigner hein ». Donc on peut bien imaginer que dans une sorte de lien sexuel ou de lien sexué en tout cas, Héraclès envoie au fond sa dimension virile dans le corps de la biche qui représenterait un élément féminin, mais dans quelque chose qui est doux et qui n'est pas au fond une blessure, hein, parce qu'on envoie une flèche, mais au fond ça ne blesse pas. Puis ensuite, il la prend sur ses épaules, il la ramène chez son cousin et finalement la biche retrouvera sa liberté. Donc je crois que dans le texte, il y a marqué que voilà, il bande son arc sans trembler, et puis il n'y a pas de goutte de sang. Donc je crois que dans cet élément-là qui serait comme une scène primitive, vous voyez, c'est-à-dire une sorte de relation sexuée, je le disais tout à l'heure, il y a une grande douceur, et je crois que Héraclès, ici, est dans une position particulière, qui est qu'il y a quelque chose dans ce récit-là, à la différence des 12 autres travaux qu'il va accomplir en relation directe avec le féminin.
Docteur Dominique Desmichel, malheureusement notre émission touche à sa fin. Nous avons bien vu le rapport entre le petit poussé et Héraclès et nous poursuivrons et bien sur ce thème dans 15 jours. Donc le petit poussé qui va retrouver cet équilibre entre féminin et masculin et Héraclès qui va lui aussi laisser tomber sa virilité pour peut-être approcher quelque chose du féminin, du sentiment et de l'émotion. Merci beaucoup et à dans 15 jours.
Merci Simon, au revoir. Thank you.